Les grands s'amusent, c'est la transmission de nos aînés, nos mémoires vives, c'est la continuité du monde, de nos valeurs, c'est surtout du partage entre générations, une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Michel Somrard. Bonjour Michel. Vous êtes un des plus renommés aromathérapeutes en France. Vous êtes producteur d'huiles essentielles et le fondateur de la société Floram, une importante société d'aromathérapie. Vous dites « Les huiles essentielles, c'est du bonheur en flacon ». Vous êtes un chercheur, un amoureux de la nature et de l'humain, un passionné dans tout ce que vous entreprenez. Vous achetez une ferme à Madagascar en 2000. Vous y installez vos plantations, votre pépinière, votre labo de recherche, votre association, on en parlera tout à l'heure. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit, disait Saint-Exupéry. Voilà, bonjour Michel.
Bonjour Anne.
Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. On va pouvoir parler pendant une heure de ce qui vous passionne. Alors, j'ai une première question pour vous, Michel Somrard. Qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel? Alors, en gros, quelles valeurs avez-vous, vous ont transmis vos parents, vos grands-parents, etc.?
Wow, c'est compliqué tout ça.
C'est compliqué?
Ça commence
dur.
Non, je crois que c'est la vie au fur et à mesure qui m'a offert des petites choses un petit peu tous les jours. Et puis peut-être effectivement c'est dans l'éducation qu'on a des sens qui se développent. Pour moi, je pense que c'est peut-être la curiosité, le goût de l'aventure, le goût du voyage, le goût de... Moi, je sais, quand j'étais enfant, je voulais être artiste peintre. Alors, on est très, très loin de...
De l'aromathérapie ?
Oui. Enfin, c'est une forme d'art aussi, hein. J'en suis persuadé. Non, je voyais... Vous savez, tous les mardis, quand j'étais tout petit, il y avait des gens qui décrochaient les affiches des cinémas et qui peignaient à la main le visage de Gary Cooper ou d'un autre. Et j'avais envie de faire ça quand je serais grand. Donc, j'ai bien fait de changer de métier parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus.
Et oui, c'est ça. Et puis, vous avez trouvé vraiment ce qui vous convenait le bien, je pense.
Oui.
Est-ce que vous aviez des modèles qui vous ont inspiré, des lectures, des...
Ah, oui, peut-être, oui. Je sais qu'un de mes héros, par exemple, c'était René Caillé, qui n'est pas très connu du public, c'est le découvreur de Tombouctou.
Oui.
Vous connaissez ?
Alors, je crois qu'il a écrit le journal d'un voyage à Tombouctou, c'est ça ?
Oui. Et bon, c'est il y a deux siècles, quand même.
Oui.
Et puis, c'est Champollion qui a su découvrir le secret des hiéroglyphes. C'est des gens comme ça qui m'ont beaucoup inspiré.
Ce sont des explorateurs ?
Oui, c'est ça, je crois.
Oui. Vous m'aviez dit aussi que vous aviez une personne qui vous avait beaucoup inspiré, vous aviez une vraie admiration pour lui, c'était Alain Bombard.
Ah oui, bien sûr, oui, mais là, là, après j'étais plus grand, j'avais 20 ans, c'était en 68.
Donc,
il dénonçait la pollution des océans et bon, moi j'ai toujours eu un pied sur l'eau et un pied dans le jardin.
Oui.
Et donc, c'est vrai que j'y étais sensible. Je me suis jamais vraiment intéressé à la politique. C'est un tort parce que je pense que c'est là qu'on peut faire des choses. Mais je me suis passionné plutôt pour des choses de la nature. Voilà.
Ouais, parce que vous avez été élevé dans la nature ou non? Parce que vous êtes né à Paris? Mais
parce que j'avais la tête dans la nature, dans les nuages, sûrement.
Depuis toujours?
Oui, je suis un rêveur.
Ouais.
Je suis un rêveur.
Est-ce que vous avez fait des rencontres décisives qui vous ont amené justement à cette nature, à l'écologie? On va y venir à tout ça.
Bah, écoutez, je sais pas, mais j'ai fait des études d'architecture et donc c'était cette partie artistique. Je me suis passionné, par exemple, pour l'énergie solaire. Ouais. À un moment, j'ai rencontré le professeur Trombe à Odéo-Font-Romeu, c'était je crois en 70-71, et je lui ai montré des idées que j'avais par rapport au chauffage des maisons, et il avait trouvé que c'était ingénieux.
Ouais.
Avec le soleil, vous voyez.
Mmh. Ouais.
Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas pu déboucher parce que dans l'administration, à l'époque, on ne considérait pas que le soleil pouvait être une énergie intéressante.
Ouais, c'était pas encore. On était dans les années quoi. Dans les années
50 ans, hein.
Ouais, 70.
En
ouais.
71, je crois.
Ouais, ouais. Et donc, on n'était pas encore sensibilisé à tout ça.
Non.
Donc ensuite vous construisez des maisons avec un copain, je crois, et puis vous larguez les amarres.
Oui.
Voilà, vous lui dites que vous avez
des amarres et on part vendre des plantes médicinales sur les marchés, les petites foires.
Ouais, comment ça se passe
avec
alors?
Avec des cheveux longs et la barbe encore, parce qu'on n'avait peut-être pas les moyens d'avoir des rasoirs.
Alors,
et ça se passe, c'est sympa, on est toujours en relation. C'est un très bon copain qui est au Mexique aujourd'hui.
Mmh. Alors, j'ai lu que vous vendiez que vous achetiez d'abord des huiles essentielles de lavande, de semences de carottes. Oui. Alors, c'est vrai que c'est étonnant quand j'ai vu ça, semences de carottes.
Oui, ben la semence de carottes, c'était, il n'y a pas un grand intérêt, mais c'était la curiosité à l'époque, quoi, c'est tout.
Donc c'était déjà curieux d'aller explorer des plantes qui n'étaient pas forcément connues ou des essences peu utilisées, ou des huiles essentielles.
Oui, mais c'était, vous savez, c'est... quand on démarre, on a envie de savoir des choses, on a envie de connaître. Mmh. Et puis moi, je voulais surtout expérimenter.
Ouais,
parce que vous savez, le savoir livresque, c'est bien, mais il n'y a rien de tel que d'expérimenter pour pouvoir témoigner de quelque chose.
Ouais.
Et c'est un petit peu contre ça que je m'insurge quand je vois beaucoup de littérature, parce que souvent la littérature, elle est faite de collations d'autres lectures, voyez.
Mmh.
Et moi, j'ai envie d'avoir en face de moi un interlocuteur qui a expérimenté, qui peut me raconter ses sensations, ses impressions, son toucher.
Ouais,
vous voyez, c'est ce qu'il a fait vraiment. Mmh. Vous voyez, ce qu'il a ressenti.
Mmh. Que ce soit du vivant.
Du vécu.
Oui, vous dites, d'ailleurs, j'aime les personnes qui ont vécu, qui ont du vécu. Et vous dites aussi, donc, quand vous avez fait cette expérience de vente de plantes, vous dites, j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait le chemin, que c'était normal, que...
Oui, c'est vrai. Bien renseigné.
Et oui.
Quand j'ai découvert les huiles essentielles, j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait la porte de chez moi. C'était ça, je crois, mon expression. Et je me suis senti à l'aise tout de suite.
C'était votre route, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors là, vous avez découvert le monde immense des huiles essentielles.
Oui. Qui n'était pas si immense que ça. Vous savez, à l'époque, c'était très très limité, ça se réduisait, c'était un embryon, l'aromathérapie n'existait pas vraiment, c'était vraiment embryonnaire. Les huiles essentielles, disons, à l'époque, elles étaient utilisées en parfumerie, elles étaient utilisées aussi dans l'aromatisation des plats, des conserves, des choses comme ça. Je me rappelle de l'huile essentielle de poireau. Personne n'en parle aujourd'hui. Ça valait une petite fortune, mais une goutte simplement d'huile essentielle de poireau dans un plat, on avait l'impression que les légumes dansaient autour de vous, voyez.
C'est vrai qu'on ne connaît pas du tout. Et justement, on va redéfinir, c'est quoi une huile essentielle?
Alors, une huile essentielle, c'est un produit qui est défini par des normes, que ce soit AFNOR en France, Association Française de Normalisation, ou par ISO, qui est la norme internationale.
Mm-hmm.
Alors, c'est un produit végétal volatile et aromatique. Vous me suivez toujours?
Je vous suis.
Alors, qui peut être obtenu de trois manières différentes. Sinon, ce n'est pas une huile essentielle.
Ouais.
Hein? Si, alors, la première manière la plus courante, c'est la distillation à la vapeur d'eau.
Oui.
Alors, imaginez, voyez, un couscoussier où on met de l'eau en bas, et au lieu de mettre de la semoule au-dessus, eh ben on met des plantes. La vapeur traverse les plantes, vous voyez, à travers le petit tamis qui est là.
Oui.
La vapeur traverse les plantes, on récupère cette vapeur et on la refroidit. Et quand la vapeur se refroidit, elle se condense, elle redevient de l'eau.
Ah ouais.
Et elle a entraîné avec elle, vous voyez, quand vous faites cuire quelque chose dans la cuisine, il y a une odeur, elle a entraîné l'odeur avec elle, et cette odeur, comme elle ne se mélange pas complètement à l'eau, elle va se séparer. C'est deux phases différentes, c'est comme l'huile et l'eau, ça se mélange pas, vous voyez.
Oui, oui, oui.
Et donc, on va récupérer la partie, on va dire, huile essentielle, qui n'est pas huileuse, hein, c'est pas de l'huile, hein, c'est plus un petit peu comme du carburant, vous savez, c'est de l'essence ou du gasoil, vous voyez, c'est pas comme de l'huile. Et donc on va récupérer cette dernière par différence de densité. Et souvent l'huile essentielle surnage au-dessus de l'eau.
Oui. Alors c'est vrai
pour
que
certaines elles se trouvent en dessous, notamment pour le girofle ou pour la cannelle.
D'accord. Alors ça, on va en parler ensuite. Vous avez fait des études de pharmacie, hein, parce que là, vous avez le côté très technique.
Oui. À Montpellier, justement, où je reviens, et c'est un petit peu mon quartier général.
Ouais, ouais.
J'ai encore des copains qui sont là, et de temps en temps, l'été dernier, on s'est retrouvés avec d'anciens pharmaciens, des professeurs, etc. Et on s'est fait un petit barbecue fort sympathique.
Et oui, parce que vous dites qu'à Montpellier, vous avez croisé quand même, vous avez fait des belles rencontres qui ont été très importantes pour votre vie future.
Mais Anne, si vous permettez, on n'a pas terminé les huiles essentielles.
Continuez.
Alors je voudrais bien continuer pour que on puisse. Alors donc il y a cette première manière qui permet d'obtenir des huiles essentielles par distillation à la vapeur d'eau. Il y a une deuxième manière de les obtenir, c'est surtout pour les oranges, les citrons, les pamplemousses, etc. Donc tous les agrumes, on presse la peau de l'agrume dans l'eau.
Ouais.
Et il va sortir donc des petites micro-gouttes d'huile essentielle qui vont s'accumuler dans l'eau, et on va les récupérer aussi ensuite par centrifugation et par différence de densité. Et comment dire, vous savez, quand vous pressez une écorce d'orange au-dessus d'une bougie, tous les enfants le font, ça.
Oui, oui.
Il y a plein de petites étoiles qui partent comme ça, des petites étincelles qui partent, et c'est de l'huile essentielle qui s'enflamme.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez. Et la troisième manière, alors là, elle est peu connue. Vous savez, quand on fait du charbon de bois, en France, par exemple, dans le sud de la France, on le fait avec du genévrier. C'est le genévrier CAD, c'est un genévrier qui monte un petit peu plus haut que le genévrier commun. Eh bien, on fait brûler, on va dire, le bois à l'abri de l'air. Ça s'appelle de la pyrogénation. Et il y a un produit qui est exsudé du bois, comme un goudron, mais ça s'appelle une huile essentielle. Et on le fait donc, l'huile essentielle de CAD, c'est le genévrier CAD, donc, c'est une huile essentielle, un peu un goudron, hein, qui est très très noir, et qui sert pour le soin des pieds des animaux, des pieds des chevaux par exemple, pieds des bovins qui sont souffrants, mais ça stimule la pousse de l'ongle. On s'en servait dans le temps pour les cheveux, contre les pellicules, pour faire pousser les cheveux, pour renforcer les ongles aussi des humains.
Oui.
Et puis on s'est aperçu que ce goudron était riche en benzopyrène. Et on s'est rendu compte, mais bon, il y a 50 ans, on n'en parlait pas, vous voyez. On s'est rendu compte que les benzopyrènes étaient carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient provoquer le cancer. Donc ça a été supprimé par l'agence de sécurité sanitaire.
Ok. Bah écoutez, on vous a donné un vrai cours. On va passer une petite musique pour faire une pause.
Allez.
Alors, c'est une musique que vous avez choisie. C'est Robert Charlebois.
Ah, d'accord.
Donc, on la passe et puis on en parle après.
Oui.
À tout de suite. À tout de suite, Michel Sambra.
bohémien bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des ombres. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Les Grands s'amusent avec mon invité Michel Sommerard. Michel, oui. Alors racontez-nous ce choix de musique Robert Charlebois, Je reviendrai à Montréal.
Vous savez, c'est toujours des trucs d'enfance. Je suis resté, je pense que j'ai conservé un petit peu mon âme d'enfant, ou du moins je suis resté fidèle à l'enfant que j'étais. Donc quand j'étais enfant, il y avait des mots magiques, vous savez, il y avait Afrique, il y avait Canada, il y avait Madagascar, il y avait des mots comme ça qui me faisaient rêver. Et donc un jour, je suis allé à Montréal et donc j'ai vu Montréal, j'ai rencontré des gens super. Et c'était fou parce que c'est un voyage qu'on m'a offert tout à fait par hasard.
C'est-à-dire
quelqu'un qui avait réservé un voyage et qui au dernier moment ne pouvait pas y aller et m'a dit, écoutez Michel, je vous donne ce billet, allez-y si vous voulez. J'ai dit oui. Donc j'ai découvert le Canada comme ça et je me suis fait des amis très forts et ça a été génial.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors à Montréal? Vous avez
À Montréal, j'ai apporté mes huiles essentielles à l'époque, c'était dans les années 80.
Ouais.
Et j'ai sympathisé avec un gars qui était à côté de moi et finalement on a fait les huiles essentielles ensemble au Québec et lui continue toujours.
Voilà. Et alors c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on sent que vous laissez aussi un peu porter par les rencontres et que par exemple vous avez rencontré Pierre Boiteux. Vous parlez de Madagascar, vous avez rencontré Pierre Boiteux.
Non, malheureusement je ne l'ai pas rencontré.
Ah, je croyais. Ouais.
J'ai croisé sa fille. Non, je suis très friand de ses écrits parce que c'est un type extraordinaire. J'ai croisé Jean Valnet, j'ai des bons amis, Pierre Francôme, Daniel Penoël, des gens qui sont des entre guillemets, des pointures dans les huiles essentielles, dans l'aromathérapie, avec lesquels j'entretiens une amitié fidèle et suivie.
Parce que Pierre Francôme, par exemple, c'est un chercheur français qui est une sommité dans le domaine des huiles essentielles, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, on passe pas une semaine sans s'appeler, vous voyez.
Donc vous collaborez ensemble à l'Institut de Pasteur, il me semble.
Oui.
Ouais. Et vous avez, alors c'est rigolo, vous avez monté un labo à Necker pour étudier...
À l'époque, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, avec un chercheur qui s'appelle Patricia D'Alessio, et on a étudié le comportement du vivant, c'est-à-dire on a étudié à l'époque, c'était sur des cellules endothéliales, ce sont des petites cellules qui tapissent les parois, à l'intérieur des parois des vaisseaux sanguins.
Je vous crois.
Ah bon,
je vous crois sur parole.
Et donc, on a voulu voir quelle était. Je vous explique vraiment très brièvement.
Oui, oui, oui.
Vous savez, ces cellules endothéliales, elles servent à extravaser, enfin, à faire sortir les éléments qui sont nos défenseurs immunitaires, on va dire les globules blancs, pour aller détruire des germes, etc., sur une petite coupure, sur une petite piqûre, ou même sur un coup de soleil, elles vont intervenir pour faire partir les peaux qui sont mortes, on va dire. Mm-hmm. Mais en même temps, en faisant tout ça, nos anticorps vont détruire des cellules qui sont tout autour et on va avoir besoin de les régénérer.
Oui.
Vous voyez ? Mais quand on régénère nos cellules, il y a quelque chose qui intervient, ça s'appelle le facteur d'infidélité transcriptionnelle. C'est-à-dire que nos cellules ne vont pas se reproduire exactement comme elles étaient. Il y a une petite partie qui s'introduit qui fait qu'elles changent d'âge, ça s'appelle la sénescence, c'est le vieillissement. Mm-hmm. Et donc, chaque fois qu'on va régénérer nos cellules, comme on dit, elles vont vieillir.
Oui.
Notre peau va vieillir. Et donc, on s'était dit, il faudrait limiter, puisque le responsable, c'était le stress. Alors déjà, le stress, il faut le limiter. Mm-hmm. Et puis, les responsables de la transmission, de la sortie de nos cellules, c'était les cellules endothéliales.
Mm-hmm.
Donc, on s'est dit, on va étudier quand elles sont... d'inhiber un petit peu, de diminuer leur stress. Et on a fait avec des huiles essentielles. Donc on a testé à l'époque une bonne quarantaine d'huiles essentielles.
Ah oui.
On a eu des résultats. Mmh. On en a sélectionné à l'époque 3 vraiment qui donnaient des résultats cohérents, reproductibles, etc.
Et quand vous dites
je vous les donne.
Oui, mais quand vous dites on a sélectionné 3 huiles essentielles, ça vous a pris combien de temps de faire ces recherches?
Ça a pris 2-3 ans.
Oui, oui. Ouais. Et effectivement, c'est un gros boulot, ouais. Ouais. Dites-nous.
Alors, on avait sélectionné le géranium bourbon, mm-hmm. qui donnait de très très bons résultats. On avait sélectionné le néroli, c'est l'huile essentielle de la fleur d'oranger amère.
Ouais.
Et puis, on avait sélectionné aussi la camomille matricaire, camomille allemande, qui a une très jolie couleur bleue. Mmh. Et donc, ensuite de ça, on a voulu connaître les molécules, parce qu'une huile essentielle, c'est un composé de quelquefois plusieurs centaines de molécules. Et on a voulu connaître les molécules qui étaient responsables de l'inhibition, donc on a voulu les fractionner.
Mmh.
Et par recoupement, par élimination, etc., on a éliminé certaines molécules. Et puis, on en a trouvé qui étaient intéressantes, notamment une, vous voyez, qui s'appelle le transnérolidol, qui se trouve dans le néroli, mais qui se trouve à 2% dans le néroli, qui coûte très très cher, vous voyez, qui reviendrait très très cher.
Oui.
Et puis, coup de chance, on a trouvé dans d'autres plantes cette même molécule dans des proportions intéressantes, de l'ordre de 50, 60, 80% même. Et donc, ça nous ouvre des pistes, vous voyez.
Oui, oui, oui. Ouais.
Mais j'ai pas de résultat définitif parce que il aurait fallu pouvoir continuer et les choses se sont pas passées tout à fait comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai découvert d'autres choses.
Ouais.
Mais j'ai toujours dans la tête, vous voyez, de continuer ces choses-là à partir des recherches, parce que vous savez, c'est très rare d'avoir une réponse précise dans ce métier. Mais on trouve des pistes pour aller plus loin.
Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment une question de temps. Alors, on va passer une deuxième musique. Alors, c'est Salif Keita, Un choix. Et puis on se reprend juste après. Voilà. À tout de suite, Michel.
Je suis un noir. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie.
mon sang est noir. Et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle. La vie sera belle, chacun à son tour dans son. La vie sera belle, la vie sera belle. La vie sera belle.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Les Grands S'amusent avec Michel Somrar, aromathérapeute. C'était Salif Keita, La Différence. Alors Michel, vous avez ensuite, vous, après tout ce travail, là vous avez travaillé aussi pour Molina et vous avez découvert des odeurs de l'autre bout du monde.
Oui.
Comme l'ylang ylang.
Oui. En fait, ylang ylang, c'était la première huile essentielle de l'autre bout du monde qu'on a pu certifier en bio à l'époque, et je crois que c'était en 88. On avait fait, à l'époque, la bio officielle n'existait pas, c'était Nature et Progrès qui était la plus grande association d'agriculture biologique en Europe, même dans le monde à l'époque, voyez, et on est allé certifier du ylang ylang à Madagascar.
Ah oui, parce qu'effectivement, c'était vraiment les débuts du bio.
Le bio officiel, ça a démarré en 91.
D'accord, ouais.
Ça fait juste 30 ans cette année.
Ah oui, effectivement. Donc vous étiez dans les premiers, vous étiez expert au ministère de l'Agriculture.
J'ai été, oui, on a créé, je fais partie des personnes qui ont co-signé la charte de l'agriculture biologique, de l'interprofession de l'agriculture biologique, et j'ai été, je pense que j'étais le premier expert au ministère de l'Agriculture pour le contrôle des importations extra-communautaires à l'époque. Il fallait donner son avis.
Ouais.
Et puis faire évoluer les cahiers des charges, parce qu'à l'époque, enfin je le rappelle comme ça, il n'y avait pas de vin bio, il y avait du raisin qui était cultivé en bio, et puis à partir, après quand on faisait du vin, comme il fallait mettre du soufre, des produits, et qu'il n'y avait pas encore de cahier des charges, ben, il n'y avait pas de vin bio, il y avait des vins qui étaient issus de raisins cultivés en agriculture biologique.
Ouais, c'est la nuance. Ouais.
Oui, voilà, ouais. Et puis il y avait plein de choses à faire évoluer, et ça a évolué, bien sûr. Vous savez, je me souviens que dans les années 80, par exemple, 70-80, quand on parlait d'agriculture biologique, c'était un entrefilet, et on le découpait, et on le mettait quelque part, parce que c'était important. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à avoir de la publicité pour les produits biologiques à la télévision, je me suis dit, ça a drôlement évolué.
Oui, oui. Ouais, vous étiez complètement à l'origine de ça.
J'en suis content, j'en suis fier un petit peu, vous voyez.
Ouais,
puis le fait que il y a des grosses et multinationales qui se sont un petit peu engouffrées, parce que dès qu'il y a quelque chose à gagner, on les voit arriver. Effectivement, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on n'a plus la même philosophie, mais quelque part, ce qu'on souhaitait, il faut se l'avouer, on souhaitait que le monde entier soit bio, parce que bio, c'était surtout par rapport à la préservation de l'environnement, au départ, vous voyez, c'est pas seulement par rapport à ce qu'on mange, c'est par rapport à l'impact que l'agriculture a sur l'environnement.
Donc développer vraiment une agriculture qui soit respectueuse des hommes, de la planète. Donc vous êtes parti à Madagascar.
Oui.
Voilà, vous partez, vous avez une vraie...
Je rencontre des gens super, je tombe sous le charme de Madagascar.
C'est une histoire d'amour entre vous et Madagascar.
Oui, il y a une histoire d'amour, et puis 10 ans plus tard, je crois, en 99, j'ai rencontré ma future épouse.
Oui.
Donc, et on a eu trois enfants qui sont grands, qui ont des nez extraordinaires.
Ah oui ?
Oh là là, c'est phénoménal.
Alors, il y a Jean-Charles déjà, Jean-Charles qui est parfumeur.
Il y a Jean-Charles qui est mon grand garçon, oui, ouais. Qui est parfumeur, hein, qui est c'est un vrai parfumeur. Mm-hmm. Mais il a 50 ans maintenant, quand même, bientôt.
Quand même. Et donc, vous avez, ouais, tous vos enfants, ouais, vous avez su leur transmettre ça ?
J'ai pas bien entendu.
Je dis, vous avez su transmettre ça à tous vos enfants ?
Je sais pas. Ils prennent au fur et à mesure. Vous savez, c'est difficile de transmettre. La chance, c'est que Jean-Charles, lui, il a baigné dedans tout petit aussi. Mmh. Les autres aussi, bien sûr. Hein. Et puis, il a eu aussi une histoire d'amour avec les odeurs, parce que c'était... Mais au départ, je ne sais pas s'il aimait bien, vous voyez, parce que c'était un peu... Vous savez, travailler avec ses parents, travailler avec son père, c'était un peu raide, hein, c'était un peu... c'était physique.
Ah oui.
Et je n'étais pas forcément toujours très tendre. Mais bon...
Et donc vous dites donc c'était physique, alors on va en parler. Vous achetez des terres là-bas qui étaient des plantations de café.
Oui.
C'est ça.
Oui oui.
Et puis donc là qu'est-ce que vous faites alors à partir de tout ça?
Eh ben je commence à planter des girofliers, je commence à planter des cannelles, je commence à planter, je vire petit à petit le café parce que la fleur de café sent très très bon, mais on peut pas la distiller.
Ah ok, d'accord.
Et puis en plus de ça, le café qu'on a là-bas, c'est pas un super café, c'est du Robusta très très ordinaire, et il est les cours du café sont fixés à New York par des gens qui n'ont jamais vu un caféier de leur vie. Et donc, c'est vraiment de l'exploitation sordide, vous voyez, de planter du café pour des gens comme ça, ça ne me faisait pas envie.
Ouais. Alors, comment vous faites? Parce que vous allez acheter des graines, c'est ça, un petit peu partout dans le monde, pour les planter ensuite dans...
Alors, certaines, parce que, vous savez, il faut, y a des produits qui sont qui vous appellent quelque part parce qu'on les découvre au fur et à mesure et je me souviens par exemple de l'arbre à thé, ce qu'on appelle le titri.
Oui.
J'ai pas mis l'accent. Hein. c'est une huile essentielle quand elle est sortie en France. Quand on a commencé à en entendre parler, il y a 35 ans à peu près, c'était pas une odeur très agréable. C'était une odeur, vous savez, ça m'a fait penser quand j'étais enfant, il y a des gens qui parlaient du whisky en disant ça sentait la punaise écrasée, que c'était pas bon, et puis tout le monde en boit aujourd'hui.
Oui, oui.
Et ben, là, pour le titri, c'était pareil. C'est une huile essentielle qui sentait vraiment pas bon, et du moins qui n'était pas dans nos odeurs. On disait, moi je me souviens d'une réflexion qui disait, oh ben ça c'est une huile essentielle pour les Allemands, vous voyez.
Ah oui.
Très raide.
Et alors, ça a évolué?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on s'est habitué à cette odeur, et puis surtout, elle a des propriétés fantastiques. Vous savez, pendant la guerre de 14, les soldats australiens qui sont venus faire la guerre en France, il y en avait dans les tranchées, eh bien, ils avaient déjà un petit flacon de cette huile essentielle pour soigner leurs bobos, les boutons, les champignons sur les pieds, parce qu'ils étaient dans l'humidité, etc. Et donc... par rapport à tout ça, il y avait un certain respect, vous voyez, qui s'est insinué dans mon esprit. Je me suis dit, ah, c'est pas n'importe quoi cette huile, elle a une histoire, donc je vais m'y intéresser. Et là, donc, je me suis fait des amis australiens, vous savez, quand on se rencontre sur des
passions.
Il existe des salons. Des salons sur la parfumerie, etc., un petit peu partout dans le monde. Et donc, la parfumerie mondiale se retrouve. Vous rencontrez les gens de Chanel, de Dior, de tout ça.
Oui.
Et on rencontre aussi des producteurs, des gens de, on va dire, de haut niveau. Et j'ai eu la chance de rencontrer un gars super qui est venu me voir ensuite en France et qui habite à Minneapolis aujourd'hui. C'est un Australien qui s'appelle Bill. Et qui est une force de la nature, qui est plus âgée que moi, mais une force de la nature. Mmh. Et sa maman a vécu jusqu'à 104 ans, je crois. Et voilà, vraiment des gens super, et qui m'a fait découvrir le Calitris intratropica. C'est une espèce d'huile qui ressemble à l'odeur à un espèce de santal bleu clair, vous voyez, magnifique. Qui vient d'Australie. Il m'a fait découvrir une huile essentielle aussi que j'ai baptisée Rosalina. C'est le Melaleuca ericifolia. Et ça sentait, vous voyez, un petit peu le linalol, la rose, les choses comme ça. Et j'ai dit, tiens, ce serait bien de l'appeler Rosalina. Et le nom est resté. C'est curieux, vous voyez.
Oui, oui. Ah, c'est joli.
Donc aujourd'hui, tout le monde l'appelle Rosalina sans savoir d'où ça vient.
Oui, oui. Eh ben, c'est bien comme ça.
Et donc, je me suis familiarisé avec le titri. Et puis là, donc, il y a une douzaine d'années, à peu près, 10-12 ans, je suis allé en acheter des graines dans une très très belle plantation qui fait une qualité supérieure. Vous savez, il ne faut pas hésiter. Quand on fait quelque chose, il faut aller vraiment vers le prana, vers la beauté, vraiment. Et donc, j'ai acheté mes graines. À l'époque, j'avais payé $62 le gramme. Vous voyez, c'est... Alors qu'à l'époque, on pouvait en acheter à moins de 10 euros en France. Voilà.
Mais vous, oui, c'est comme des grands crus, en fait. C'est vraiment des...
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un grand cru. Vous avez dit le mot juste. Ouais. Et donc, j'ai eu du mal à l'acclimater.
À Madagascar.
À Madagascar. Ah oui, parce que... elle s'est acclimatée parfaitement. J'ai réussi à en faire pousser. J'ai réussi à en faire pousser et aujourd'hui j'ai 3-4 hectares de titri.
De titri. Et comment on fait justement pour qu'une plante qu'on a achetée à l'autre bout de la planète s'acclimate justement
à... C'est pas évident, mais c'est une plante de l'hémisphère sud déjà. Et je sais que, par exemple, elle n'a pas voulu germer à la ferme. Ma ferme est au bord de la mer.
Oui.
Vous voyez, elle n'a pas voulu germer à la ferme. Mais il n'y a pas que celle-là. Par exemple, une huile essentielle dont on parle beaucoup, c'est le Ravinsara.
Oui.
Quand je fais germer mes graines de Ravinsara vers la ferme, c'est-à-dire au bord de la mer, j'ai un rendement de 20% peut-être. Et quand je fais germer en altitude, parce que j'ai des terres en altitude aussi, à 1200 mètres, eh bien, ça germe parfaitement. J'ai 90% de rendement. Mais là, ça fait la même chose pour le titri. J'ai fait germer en altitude. Ça a très bien germé. Ensuite, on a mis ça dans des petites plaques alvéolées. On les a retransportées à la ferme. Mm-hmm. Et là, à la ferme, ils se développent d'une manière fantastique.
Alors, vous parlez de la ferme. On en parle un petit peu. C'est la ferme Ma'a'oza, c'est ça?
Maasu.
Ah oui, Maasu, avec l'accent.
Ça veut dire fait du bien, ça veut en malgache. Ça veut dire, on pourrait traduire ça comme le porte-bonheur. Et ça me convient parfaitement.
Eh oui. Et là, vous avez à peu près 500 hectares de terre.
En propriété, 350.
350.
Mais en concession, après, j'en ai davantage. Et on ne les utilise pas non plus parce que c'est très très grand, c'est très vaste. Il
n'y
a pas assez de monde pour les travailler non plus.
Donc en fait, là vous employez pas mal de monde et c'est des malgaches uniquement qui travaillent avec vous.
Oui, bien sûr,
Qui sont, vous leur transmettez votre passion. Ils sont tous, ils sont comme vous. Ils sont mordus.
Il y en a, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur la ferme.
Donc ils vous accompagnent, ils sont aussi. Vous les formez.
Et on se parle pratiquement tous les jours parce qu'aujourd'hui, au début, j'avais installé une parabole et j'avais mis Internet à la ferme. Et donc, ce qui nous permettait de communiquer donc avec l'extérieur. Et parce qu'on est à 72 kilomètres de la première ville.
Ah oui, ouais, effectivement. Et donc tous ces gens-là, vous les formez comment? C'est
moi, bon, c'est pas très difficile.
C'est
des gens qui ont un sens inné de la nature. C'est difficile de leur faire, de les mettre sur un tracteur, etc., avec du matériel sophistiqué. Mais c'est très facile de les mettre avec des outils manuels et de travailler les plantes et puis de le faire bien en plus.
Ouais, vous voyez. D'accord. Ouais, ils sont sensibilisés à ça, à la nature, à la.
Alors moi j'ai introduit des trucs. Vous voyez, par exemple, on fait des pots, on fait nos pots nous-mêmes avec du papier de journal que j'achète les invendus. On les découpe en bandes. On fait nos petits pots pour les semis avec du papier, ce qui permet, si on veut, de le replanter directement. Vous voyez, il n'y a pas de plastique. Mmh. Et ce que j'essaye d'apporter là-bas, c'est se rendre compte de la pollution des plastiques, par exemple.
Ah ouais, c'est bien.
Quand vous êtes dans les campagnes, c'est facile. Tous les petits commerçants, ils ont des petits sacs en plastique très très fins dans lesquels ils vendent une cuillère de sel, une cuillère de poivre, une cuillère... Ils vendent des trucs comme ça parce que les gens n'achètent pas... Personne n'achète un kilo de sel, vous voyez. Mmh. Ils achètent 10 grammes ou 20 grammes de sel, ça suffit. Mmh. Ils n'ont pas l'argent pour acheter.
C'est
une mentalité totalement différente. Mmh. Ici, des jeunes qui ont 25 ans, ils pensent déjà à leur retraite, ils prennent un crédit sur 20 ans, voire plus, alors que là-bas, un type moyen dans la brousse, il ne sait pas s'il va manger. Il ne sait pas ce qu'il va manger, il ne sait pas s'il va manger à midi. Vous voyez, donc on ne peut pas avoir le même comportement par rapport aux choses.
Oui.
Mais ils ont un comportement très respectueux du vivant, des plantes, des choses comme ça.
Oui, donc c'est ça qui vous a plu là-bas aussi. C'est tout ce côté que vous retrouvez finalement dans votre...
Vous savez quoi, ils sont très forts. Vous avez essayé déjà de couper du bois avec une hache, par exemple. Alors, on va... Moi, par exemple, je sais que je ne vais pas retomber avec la hache exactement au même endroit, vous voyez. Mmh. Je vais avoir un petit décalage de 1 cm, 1 cm et demi. Bon, petit à petit, ça finit. Mais ces gars-là, écoutez, ils ont une adresse fantastique. Avec une hache, ils sont capables de taper exactement toujours au même endroit. Ils ont, je ne sais pas, ils sont très forts. Ils sont très très forts pour plein de choses naturelles, on va dire.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai une grande admiration pour ça.
Donc vous apportez des choses mutuellement, c'est ça que je dis.
On se complète. Je réfléchis et puis je leur apprends aussi à réfléchir. Comment dire, par exemple, vous voyez quand il y a un problème, j'ai plusieurs personnes dans mon équipe qui sont mes cadres, je leur explique que quand il y a un problème, déjà faut bien l'écrire pour bien le matérialiser le problème. Et puis on va ensuite écrire trois solutions au problème. Et puis quand on les a écrites, ces trois solutions, on va rayer la plus mauvaise. Ensuite, on va rayer l'autre qui est la plus mauvaise, et puis celle qui reste, on va s'en servir pour solutionner le problème.
Ouais.
Et j'ai dit, même si c'est une bêtise, si vous avez pris cette manière de faire, vous avez raison.
Ouais. C'est très joli. On va faire une petite pause musicale.
Je vous en prie.
Alors ça, c'est une musique que vous avez choisie. C'est Maaelo Mimosa. On en parle juste après.
Maaelo.
On en parle juste après.
Yeah.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1, l'émission Les Grands S'amusent avec mon invité Michel Sommerard. Michel, c'était très doux, très joli cette musique.
Ah, c'est très joli.
Qu'est-ce que c'est ?
Vous savez, c'est une chanson d'amour, c'est où on se rappelle quand on s'est rencontré l'odeur des mimosas. Donc c'est au mois d'août, les mimosas, puisque la saison est inversée là-bas, hein, c'est août-septembre, oui. On va dire, les mimosas fleurissent sur les hauts plateaux. C'est vraiment très très joli. Vous savez, le malgache, c'est une langue très poétique. Par exemple, le soleil, on l'appelle Masuanj, ça veut dire les yeux du jour.
C'est joli. Vous parlez de malgache ?
Je me débrouille.
Vous débrouillez.
Ouais. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature en malgache et donc pour apprendre, il faut avoir un intérêt linguistique, on va dire. Ouais. Alors, mis à part aller au marché et le travail à la ferme, etc., je suis bien incapable de tenir un discours. Mm-hmm. Mais bon, je me débrouille, ouais. Ça va.
Et puis, on sent que vous sentez proche des gens de Madagascar, hein, même si vous ne parlez pas le malgache. J'imagine que vous avez... voilà, vous arrivez bien à communiquer.
Oui.
Alors vous êtes tellement proche des malgaches, etc., que vous avez aussi créé une fondation qui s'appelle School of Madagascar.
Oui, alors ça s'appelle School et ça m'a, Dieu sait si ça m'a été reproché par les ambassadeurs successifs que j'ai pu fréquenter, parce que school c'est un mot anglais, mais en fait avant que les Français débarquent à Madagascar, c'était les Anglais qui y étaient. Et ils ont fait un échange d'État à État entre Madagascar et Zanzibar. Et donc on s'est retrouvés, les Français se sont retrouvés à Madagascar, et il y avait déjà des écoles qui étaient, enfin des écoles, il n'y en avait pas beaucoup, mais écoles, ça se disait school, parce que, et ça s'écrit sécoli. Mais ça se prononce school. Alors donc, ces colis, en français, ça n'aurait pas donné grand-chose, alors que school, c'était plus marrant. Mm-hmm. Et donc, on a appelé ça school.
Mm.
Donc... Et à aujourd'hui, on a construit, avec tous les copains de la parfumerie, de la bio, de tout ça, on a construit 62 salles de classe, on a fait des forages, et il y a des enfants qui sont parrainés. Ça coûte 15 euros par mois pour envoyer un enfant à l'école. Je trouve que c'est pas cher. Voilà, on peut se donner bonne conscience avec pas trop. C'est un site, c'est school.asso.fr.
Ah bah, c'est très bien de le dire, comme ça on ira voir. Et donc ça, vous êtes associé avec, avec plusieurs personnes, qui sont comme vous, qui sont dans l'aromathérapie, c'est ça ?
Oui, par exemple, il y a les huiles essentielles du docteur Valnay, il y a Sève Essence, il y a les plantes aromatiques du Diwa, il y avait aussi Jean Hervé, qui est décédé maintenant, c'était un bon copain, il y en a d'autres qui ont participé. Il y a aussi, par exemple, Aveda, ici c'est pas connu parce que c'est pas distribué en Europe, c'est la partie cosmétique bio, on va dire, d'une grande marque de cosmétiques qui s'appelle Estée Lauder.
Ouais, oui,
vous connaissez.
Oui, on connaît. Ouais, ouais,
et
ouais.
Ben, c'est le deuxième mondial après L'Oréal.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Voilà.
Okay.
Donc, c'est voilà, des gens qui ont des budgets et qui, pour donner de l'eau potable, par exemple, vous voyez.
Ouais, ouais.
C'est
très sympa. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment on prend soin des personnes âgées à Madagascar. Comment on prend soin des personnes âgées? Comment on s'occupe, si j'ose dire, des morts, des gens qui ne sont plus là? Est-ce que voilà, les choses sont différentes de
en Occident? On est toujours dans la famille. C'est un peu plus fort qu'ici, vous voyez. C'est un petit peu plus fort qu'ici et je m'en suis rendu compte quand j'ai dû m'occuper de ma mère. En fait, quand un moment de vacances, je suis rentré en France et ma mère était dans un comment ça s'appelle, vous savez, une maison de retraite.
Un EHPAD, oui.
Voilà, et ma sœur pouvait pas s'en occuper, elles vivaient ensemble, elles ont vécu ensemble toute leur vie, toutes les deux. Et ma sœur pouvait plus s'en occuper à cause de sa santé. Donc quand j'ai vu ma mère comme ça, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pris des billets en business class et on est reparti. On a eu droit au champagne, on a eu droit à tout ça. On est parti ensemble à Madagascar et je l'ai bien installée là-bas. Elle avait une infirmière à domicile, elle avait trois personnes pour s'occuper d'elle, donc en permanence. Plus la famille, bien sûr,
ouais,
mais il y avait des gens qui étaient vraiment à sa disposition. C'est sûr qu'on peut pas le faire en France à ce niveau-là, parce que ça reviendrait trop cher, vous voyez. Moi, je m'estime un petit peu privilégié quand même.
Mais
et ma mère a fini ses jours là-bas, elle était heureuse, elle voyait ses enfants, enfin son grand garçon, elle voyait ses petits-enfants, et à chaque fois qu'elle me voyait arriver, elle disait « Ah, mon fils, je suis contente !» Et voilà, elle a fini ses jours comme ça.
Ouais, des valeurs de
ça m'a, vous savez, ça fait une véritable réconciliation avec soi-même aussi, parce que on n'est pas toujours d'accord avec ses parents. Dans la vie, il y a des hauts, des bas, mais là, on a communié vraiment. Et puis surtout, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que tous mes très très bons amis malgaches, qui sont à des niveaux, même vous voyez, des gens fortunés ou des gens de très grandes familles, etc., m'ont dit, tu sais Michel, on avait beaucoup d'estime pour toi par rapport à tes connaissances, ton métier, tes qualités humaines, etc., mais ce que tu as fait avec ta mère, tu es des nôtres.
Ouais, c'est vraiment les mêmes valeurs, même valeurs de respect de l'autre, d'entraide. Ouais, c'est joli. Ouais, vous êtes chez vous là-bas. Vous êtes vraiment chez vous.
Tout à fait.
Ouais. Si vous aviez un message ou des messages à passer aux jeunes, Michel Sommerard, ce serait lesquels ou lequel? C'est pas facile.
Je sais pas. Faut essayer de vivre ses rêves, être fidèle à l'enfant qu'on est toujours à l'intérieur, de respecter les autres surtout. Vous savez, on peut très bien dire plein de choses sans blesser les autres. Voilà, c'est un message de gentillesse, de partage, d'amour. D'amour, je veux dire, général, pas de conflit, ça sert à rien. Et surtout, jamais s'énerver. Et c'est les Malgaches, par exemple, ou les Africains même, qui vous apprennent ça, parce que quelqu'un qui s'énerve, il se plonge lui-même dans le ridicule.
Ah oui, c'est drôle. Ah oui.
Voilà. Et donc, voilà, j'aurais aimé peut-être vous raconter des anecdotes, parce que c'est, vous savez, ce qui est important, c'est de, sur le chemin, et ça, c'est un message pour les jeunes, aussi, sur le chemin de la vie, de temps en temps, il y a des petits repères qui vous remettent, qui vous permettent de vous situer sur le chemin. Et je me souviens, à une époque, on avait des problèmes de parasites sur les abeilles. Et j'avais imaginé, par analogie avec ce qui s'était passé aux îles Moluques à l'époque où les Portugais et les Hollandais se faisaient la guerre des épices, je m'étais dit, tiens, peut-être que le girofle irait bien pour aider les abeilles à se débarrasser de leurs parasites. Puisque quand on fait de la bio, on n'a pas le droit aux antibiotiques, on n'a pas le droit à ces choses-là, vous voyez.
Oui.
Donc j'avais mis de l'huile essentielle de girofle sur des petits morceaux de buvard à l'entrée des ruches, et effectivement c'était un petit peu fort. Alors je me suis dit, tiens, je vais utiliser l'eau florale. L'eau florale, c'est la partie de l'eau qui est distillée en même temps que l'huile essentielle, vous voyez, mm-hmm. et qui contient encore des propriétés extraordinaires. Et donc je me suis dit, on va faire des petites réglettes d'argile, mais l'argile, on va la mélanger avec de l'eau florale et faire des petites barrettes d'argile comme ça. Mmh. Et je me suis dit, mais il faut distiller du girofle. Alors donc, en France, à Saint-Rémy-de-Provence, il n'y avait pas tellement de girofle, donc j'en ai commandé, j'en ai fait venir, et je me posais la question, je me dis, bon, comment je vais faire, etc. Donc je réfléchis, je calculais tous les jours en me disant, bon, je vais faire comme ça, et puis un beau jour, je me dis, bon, allez, je le fais demain. Et le matin, je suis réveillé par un rêve, vous voyez, j'étais dans un rêve où je distillais mon girofle avec un alambic en cuivre que j'avais là-bas, et l'eau, vous voyez, le liquide à la sortie du serpentin coulait blanc comme du lait, alors que jamais ça n'arrive. Vous faites de la lavande, vous faites du thym, vous faites de la sauge, vous faites du romarin, ça coule toujours transparent comme de l'eau. Oui, même si on fait de la camomille matricaire, ça coule transparent. Après, ça devient bleu à l'intérieur, l'huile essentielle, voyez, mais oui, au départ, on ne le voit pas.
Oui,
et donc, c'est le liquide, vous voyez, qui me réveille comme ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Et donc, je pars à la distillerie. J'installe avec, j'avais un commis qui s'appelait Jean-Luc, on installe le girofle, etc. On allume, et puis je lui dis, moi je vais regarder un petit peu les messages, je vais regarder les courriers, et tu m'appelles quand ça coule. Et au bout d'une demi-heure, je vois mon Jean-Luc arriver en me disant, Michel, venez vite, ça coule blanc comme du pastis. Et donc, je suis arrivé là-bas et, bon, je me suis dit, la plante m'a envoyé un message dans la nuit. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ouais.
Mais je trouve que quand on a la chance d'avoir une relation comme celle-là, avec une plante, avec, je ne sais pas, je pense qu'à ce moment-là, on se dit, j'ai les pieds au bon endroit.
Exactement, ouais.
Vous voyez,
c'est très joli, c'est très joli. Je suis désolée, Michel, mais on... l'émission est... Ouais, ça s'est passé très, très vite. C'est vraiment...
Oui, tout à fait.
C'était une très belle émission.
J'ai l'impression de ne pas vous avoir dit beaucoup de choses
mais
qui intéressaient les gens.
Vous reviendrez, je pense que ça va être passionnant. Merci beaucoup parce que vous êtes un formidable chercheur, un amoureux de la nature. On sent que vous êtes hyper humain. C'était vraiment une belle transmission. Je vous remercie beaucoup. Puis on fera une autre émission. Voilà.
Je vous remercie.
Très bientôt,
bonne
Michel
journée,
Samra.
Bonne
merci.
Journée à tous, en tout cas.
Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.